RBA FM Auvergne-Limousin, RBA.
L'université foraine est une expression empruntée au monde de l'architecture. Elle correspond ici à la volonté de sortir des murs de l'université et de travailler sur un territoire émergent, c'est-à-dire n'ayant pas de lien conventionnel récemment établi avec l'université Clermont-Auvergne, mais se proposant d'en nouer. Cette université foraine est établie d'un lieu à l'autre au fil des années et de la volonté des collectivités de s'inscrire dans ce type de projet. L'université foraine consiste alors à mobiliser les forces vives de l'établissement en leur proposant de répondre aux attentes d'un territoire tout en analysant ses potentialités dans une perspective atemporelle. Elle permet de créer les conditions d'un dialogue favorisant l'ancrage de l'université au cœur de sa région tout en s'efforçant de participer au développement local. L'idée est d'agir à une échelle humaine sur un espace commun dans une stratégie gagnant-gagnant. À l'université, le bénéfice de revendiquer une meilleure implication locale par la mise en œuvre de ses compétences en matière de formation, de recherche et de professionnalisation. À la collectivité, la possibilité de devenir une identité remarquable en favorisant le lien avec son environnement social, culturel et professionnel. À l'occasion des universités foraines au collège de Hyde, mardi 10 octobre dernier, une délégation du collège d'enseignement général et professionnel de Sept-Îles au Québec s'est rendue sur place pour rencontrer les élèves et l'équipe pédagogique de l'établissement scolaire de Hyde. J'ai rencontré trois acteurs, trois intervenants de cet événement. Éric Agbessi est directeur de l'IUT de Clermont-Ferrand. Il nous explique le concept et la volonté de l'université foraine. Éric Agbessi est notre premier invité. Bonjour Éric Agbessi.
Bonjour.
Directeur de l'Institut universitaire de technologie de Clermont-Ferrand, vous êtes Éric Agbessi à l'initiative des universités foraines, ces rencontres itinérantes. Alors, quelles sont les motivations qui ont conduit à la mise en place et réalisation finalement de ce projet fédérateur ?
Bon, elles sont nombreuses, je vais essayer de les résumer. La première chose, c'est la volonté de l'université d'innerver le territoire sur lequel elle est implantée. C'est la première raison. La deuxième chose, c'est de faire du lien entre les collèges, les lycées, l'université, pour qu'il y ait un continuum de formation et que l'on montre de quelle façon l'université peut être associée à des projets de collèges et de lycées. Et la troisième chose, c'est la volonté de travailler au plus près de territoires qui ont des spécificités qu'on ne connaît pas assez.
Monsieur Agbessi, vous avez plusieurs casquettes, mais celle-ci de mettre en place l'accessibilité de l'université, comme vous l'aviez fait à destination des étudiants en situation de handicap auditif, demeure pour vous une véritable volonté de rapprocher, je dirais même de démocratiser, c'est cet esprit que l'on retrouve finalement dans les universités foraines ?
Oui, je crois qu'il faut que nous travaillions de plus en plus à l'accessibilité des formations qui sont les nôtres. Alors que ce soit pour les gens en situation de handicap, un travail qui m'a pris plusieurs années et qui m'a permis d'associer des gens du monde entier, ou que ce soit pour prendre en compte des enfants ou des étudiants qui ont des spécificités sur le plan de la motricité ou sur le plan des apprentissages. C'est aussi une question qui m'a tenu à cœur pendant toute ma carrière. Et là, nous sommes sur un tout autre projet. Nous sommes à essayer d'éviter un certain déterminisme social. Et donc ça, pour moi, c'est crucial à l'heure actuelle.
La démarche université foraine, unique en France, est aussi de multiplier ses actions sur d'autres régions. Pour le coup, est-ce que le territoire Sumène-Artense, c'est en quelque sorte un laboratoire ?
Oui, c'est un laboratoire effectivement à ciel ouvert. C'est un laboratoire qui permet d'expérimenter un certain nombre de choses. Et de toute façon, Sumène-Artense restera à jamais le territoire qui, pour la première fois, a hébergé ce type d'expérimentation en France. Il y a eu d'autres expérimentations avec le titre d'université foraine, mais c'était dans le cadre architectural. Là, nous sommes véritablement dans une démarche associant selon une géométrie variable, des collectivités territoriales et une entité universitaire.
Et quels sont, selon vous, Éric Agbessi, les atouts, les caractéristiques de ce territoire pour s'associer pleinement aux universités foraines ?
La première chose, et de toute façon c'est un espèce de fil d'Ariane que l'on retrouve et qui marque profondément culturellement les gens, je pense que ça c'est un point particulièrement intéressant, c'est la mine. L'image du mineur, ce qu'il a pu vivre, les difficultés de son travail, ce qu'a pu devenir le territoire par la suite, ça intéresse toujours les gens. Et donc en tant que tel, Sumène-Artens, c'est vraiment, nous n'y avons pas pensé au tout début du projet, mais véritablement quelque part un exemple qui permet de décliner à l'envi les projets qui sont les nôtres.
La commune de Hyde, sur laquelle se situe le collège Georges Rebrassens, c'est le second bassin industriel du Cantal. Il n'en demeure pas moins que tout autour, ce paysage reste un paysage rural. Alors l'industrie, la ruralité, toutes ces activités différentes et en même temps associées sont autant d'atouts pour accueillir les universités foraines et engager un travail ensemble.
Oui, parce qu'il y a eu au cours de l'année universitaire 22-23 un travail pendant une journée de 160 étudiants qui ont travaillé sur entreprendre dans mon territoire et qui se sont appuyés sur les forces vives de ce territoire Sumène-Artens pour décliner des projets qui ont repris certaines idées que les élus avaient d'ores et déjà eues, mais qui ont été plus loin dans certaines démarches. Maintenant, il va falloir les concrétiser. C'est ce que nous forçons de faire cette année.
Éric Agbessi, vous êtes impliqué dans différents projets européens de formation et en particulier au sein de l'ESEM, l'ESEM qui contribue à la vie sociale, économique et culturelle de l'Europe par la promotion et le développement des apprentissages dans les établissements d'enseignement supérieur. L'implantation de formation supérieure dans les petites villes est initiée en 1991 avec le plan Université 2000. Pour autant, on continue de faire état d'une inégale répartition territoriale des formations supérieures. Quelle est votre opinion sur cette réflexion?
Oui, c'est tout à fait juste. Je ne vais pas aller à l'encontre de constats qui ont été faits il y a longtemps. Je pense qu'à l'heure actuelle, nous sommes sur deux phénomènes qui vont amener à un certain nombre de changements. Le premier, c'est le fait que nous avons des technologies qui nous permettent de nous rapprocher d'un certain nombre de personnes qui précédemment n'avaient pas accès à nos formations. Et le deuxième, c'est la mobilité de l'université. L'université ne va pas rester uniquement sur ses campus. La première démonstration est l'université foraine. Et donc, ce rapprochement territorial par la mise en place à certains moments de modules de formation ou de temps de formation qui permettent après peut-être de passer à autre chose, mais de ne pas être figé dans une structure, est à mon avis le deuxième pan de quelque chose qui va amener à une innovation en matière de formation.
Et vous êtes également spécialiste de la civilisation américaine, ce qui me ramène aux universités foraines pour lesquelles cette année une délégation du Cégep est présente. Le Cégep est un établissement d'enseignement collégial public et unique au Québec, là aussi évoluant dans la volonté de favoriser l'accès aux études supérieures et qui bénéficie d'un excellent taux d'insertion professionnelle, c'est bien de le souligner. Les rencontres Cantal-Québec ont-elles pour but de renforcer les liens avec la belle province ou alors mettre en commun les compétences de ces territoires d'un bout à l'autre de l'Atlantique ?
Je pense que vous avez tout dit. D'un côté, c'est effectivement la volonté d'unir des forces pour aller plus loin dans la démarche de travail avec des territoires puisqu'ils sont sur la côte nord et en tant que tel, ils rencontrent les mêmes problématiques. Et de l'autre côté, c'est d'essayer d'innover en termes de relations internationales. Nous avons l'habitude et des modèles qui sont extrêmement performants et très bien huilés de rencontres universitaires. Là, on sort de notre domaine de fonctionnement habituel pour justement initier de nouvelles démarches. Et c'est du gagnant-gagnant.
À noter que le Cégep de cette île est la seule institution collégiale au Québec à embaucher une navigatrice des Premières Nations. Elle s'appelle Marie-Marthe Malek et elle prendra la parole tout à l'heure. Pour conclure, Éric Agbessi, directeur de l'IUT de Clermont-Ferrand, comment vous voyez la continuité des universités foraines, cette action engagée et engageante pour les années à venir?
Tout d'abord, nous sommes sur la phase expérimentale pendant 3 ans. On va voir ce qui va fonctionner. Une fois que nous serons sûrs que certains points que nous avons développés peuvent être portés plus longuement, eh bien nous nous donnerons les moyens de les mettre en place.
Merci Monsieur Éric Agbessi.
Merci, merci à vous. Bonne journée.
RBA FM et le magazine L'Hebdo, spécial Université foraine et rencontre Cantal-Québec au collège Georges Brassens de Hyde du 10 octobre dernier. Parmi la délégation québécoise, j'ai rencontré Marie-Marthe Malek du Cégep de Sept-Îles au Québec. Depuis plus d'une vingtaine d'années, le Cégep de Sept-Îles multiplie les efforts afin de permettre une plus grande accessibilité aux populations autochtones aux études supérieures. Dans la continuité de ces efforts, le Cégep accueille depuis le 31 août 2020 une ressource qui se consacre entièrement à la présence des étudiants des Premières Nations à l'intérieur de l'établissement. Marie-Marthe Malek, qui occupe le nouveau poste de conseillère pédagogique et de navigatrice des services auprès des étudiants des Premières Nations. Ses qualités de cœur, son amour pour sa culture, sa conviction profonde que l'éducation est l'une des principales clés de l'émancipation des communautés et sa grande expérience de pédagogue auprès de la jeunesse autochtone font d'elle une alliée incontournable à la fois pour le Cégep, mais également et surtout pour les étudiants. Marie-Marthe Malek s'est livrée pour RBA et le magazine L'Hebdo. Bonjour Marie-Marthe Malek.
Bonjour tout le monde. Je salue dans ma langue.
Marie-Marthe Malek de la Nation Innu, navigatrice Première Nation et conseillère pédagogique Cégep de Sept-Îles. Sept-Îles sur le littoral nord du golfe du Saint-Laurent au Québec. Navigatrice des services auprès des étudiants des Premières Nations. Vous occupez ce poste depuis, si je ne m'abuse, vous êtes là pour me rattraper. Vous occupez ce poste depuis le 31 août 2020 au Cégep de Sept-Îles. Alors, ma première question, en quoi consiste véritablement le poste de navigatrice des Premières Nations?
Parfait. Je tiens aussi, j'ai rentré au début avec le poste de conseillère pédagogique pour travailler avec les professeurs et aussi les conseillers, ceux qui ont des étudiants de Premières Nations. Navigatrice des services Premières Nations, c'est pour saupoudrer, j'emploie toujours ce mot-là, saupoudrer un peu de la culture autochtone, de la sécurisation culturelle. En tenant compte, je sais pas, exemple de la littérature, qui prennent des livres. On a quand même des poètes chez nous. Il y a Naomi Fontaine. Naomi Fontaine travaille aussi au Cégep. Elle travaille au Cégep. Et puis Joséphine Bacon, Natacha Canapé. C'est dans ce sens-là, là. Qu'on connaisse notre région, qu'on valorise notre région Côte-Nord. La Côte-Nord est divisée en trois partie, la basse Côte-Nord, la moyenne Côte-Nord et la haute Côte-Nord. Et puis moi, je travaille avec les coordonnateurs de programmes. Récemment, il y a une semaine, on a fait un projet pour que les étudiants de troisième année des infirmières aillent dans les communautés. Donc, ils sont allés faire leur stage, l'immersion totale. Dans la communauté de Ekwanchit. Donc, il a été jumelé avec des infirmières autochtones ou allochtones qui travaillent dans le milieu. Ils ont appris beaucoup de choses dans leur culture. Ils ont fait leur propre pain cuit sur le sable. Ils ont tout mangé la nourriture de bois. Ils ont vécu avec les allochtones. Ils ont été jumelés avec les infirmières dans les dispensaires, dans les écoles, pour qu'ils puissent connaître. C'est ça le rapprochement des nations.
C'est une immersion, finalement, avec les autochtones.
Voilà. Et aussi, c'est sûr que comment je pourrais te dire ça, là, dans d'autres programmes, ça dépend qu'est-ce que le prof... Moi, là, c'est pour la sécurisation culturelle, la valorisation de la langue et de notre culture, mais c'est selon la vitesse. J'y vois pas leur dire, bon, on va changer si j'arrive pas avec mes gros sabots. Non, je prends leur temps. Et le rapprochement, c'est comme ça qu'on doit faire. C'est doucement. Le prof vient me voir. Bon, qu'est-ce que tu pourrais faire? Qu'est-ce que tu pourrais me conseiller? Qu'est-ce que je pourrais faire? Ou bien, des fois, je suis aussi comme une grand-maman, psychologue, je suis infirmière. Et les Innus, là, qui viennent dans mon local, j'ai un local. Et puis, des fois, quand ils ont des problèmes qui ne viennent pas de l'école, mais des fois, c'est des adultes qui ont des enfants aussi, hein? Alors, ils viennent pleurer, ils préfèrent mieux parler dans leur langue, c'est plus facile. Après ça, je m'en vais les guider dans les bons départements, voir une intervenante ou en adaptation scolaire.
Il est à noter quand même que les Premières Nations sont avec les Inuits et les Métis, les peuples autochtones du Canada. Cette expression, je tiens à le souligner, cette expression Premières Nations s'est répandue dans les années 70 afin de remplacer le terme indien jugé offensant. Aujourd'hui, l'industrie touristique vend le Canada en parlant des Premières Nations de façon plutôt folklorique. Pourtant, la vérité est tout autre. Les conditions sociales varient considérablement entre autochtones et Canadiens. Qu'en est-il exactement sur cette face-là, Marie-Marthe Malek?
Vous savez, il y a plusieurs nations. Moi, je suis de nation Innu. Puis dans la côte nord, il y a 8 communautés Innu. Puis il y en a d'autres nations, il y a les Naskapi, les Inuits, que vous avez dit, les Malécites, les Atikameks. Alors, chacun a quand même sa culture dépendant aussi. C'est, exemple, la chasse. On vit de chasse et de pêche sur la côte nord, OK? Et ce sont des saumons, morues, truites et ça, et du caribou. Et récemment, là, parce que le caribou était disparu, les jeunes commencent à aller à la chasse à l'orignal. On mangeait pas ça de l'orignal avant. C'était plutôt chez les Atikameks qui mangeaient l'orignal. Alors, je dis, on a quand même nos différentes dépendances. Les Autochtones sont partout. On occupe le Québec. On est les premières nations, les premiers habitants. On est les protecteurs de la terre. On vient de la terre. On est de la terre. On retournera dans la terre. Alors, la terre-mère, c'est notre mère.
Depuis une vingtaine d'années maintenant, le cégep de cette île multiplie les efforts pour une plus grande accessibilité des populations autochtones aux études supérieures. C'est peut-être ce qui vous rapproche des universités foraines initiées sur le territoire français. C'est peut-être aussi ce qui motive votre venue ici, dans le but, sans doute, de partager les problèmes d'intégration et d'accessibilité. Certes, pas les mêmes, mais les partager un peu.
Hier, c'est ça que j'ai écouté, j'ai observé beaucoup. Et puis, ça me rapprochait. Ça rapproche parce que, qu'est-ce qui arrive, c'est que moi, j'ai enseigné 35 ans, avant d'être conseillère pédagogique et navigatrice des services Premières Nations au cégep de Sept-Îles. Je m'en vais sur ma 4e année. Et puis, ça rapprochait. Tu sais, le programme de l'éducation québécoise, peu importe le niveau que j'ai enseigné la maternelle, primaire, secondaire, puis j'ai été orthopédagogue aussi. Là, je suis rendue au secondaire, au collégial. Alors, j'ai toujours intégré ma culture et ma pédagogie que moi, je l'ai décrivée dans ma culture, là, elle est plus forte, ce mot-là. C'était « voir et faire ». Et l'Université de Forêt, j'ai observé, ça cadrait beaucoup. Ça venait me chercher quand j'ai écouté. Mais mon Dieu, c'est toujours ça que j'ai enseigné parce que chez les Autochtones, ils ne donnent pas des cours magistrales de 1 heure. Nous, là, c'est oral. On apprend en observant, on apprend en regardant et on le fait.
C'est aussi dans une volonté affichée de renforcer les liens, certes. Votre plus beau souhait, Marie-Marthe Malek, voir les peuples réconciliés et unis sous une seule nation. Alors, j'imagine que la réconciliation et l'unité s'appliquent également d'une manière plus universelle, selon vous.
Oui, et je me dis, qu'est-ce qui va nous réunir? C'est l'éducation. C'est l'éducation et dans le futur, ce que je souhaite, c'est qu'on jongle les deux cultures. Qu'on jongle les deux cultures. Moi aussi, je suis en apprentissage de ma culture constamment parce que je suis une expansionnaire, moi aussi. J'étais au pensionnat et puis j'étais jeune. Et puis, je découvre ma culture tardivement. J'ai pas le choix parce que j'ai été dans les hautes études. J'ai fait mon bac à Chicoutimi. J'ai fait mes études supérieures à l'Université Laval. Et j'ai fait mon cours en droit autochtone à l'Université d'Ottawa. Donc ça, là, c'est dans le but qu'on puisse travailler ensemble pour pouvoir conduire nos enfants à vivre ensemble, cohabiter ensemble dans la terre-mère.
Et je souligne, et c'est vrai, vous en avez parlé, que vous avez l'entière conviction que l'éducation est l'une des principales clés de l'émancipation. Vous enseignez, je serais tenté de dire, je ne vous connais pas, mais je pense que vous enseignez humblement. Est-ce que l'humilité est une identité québécoise?
Ben, je pense que l'humilité, c'est dans votre langue, OK? Puis dans notre langue, c'est autre chose, mais c'est la même chose. C'est une qualité. C'est une qualité qu'on doit l'avoir humblement, comme tu me dis. Moi, c'est spontané, là. Je vais rencontrer tantôt les élèves. Je vais leur montrer. Mais la plus grande reconnaissance que j'ai eue, la plus haute distinction qu'un Autochtone puisse avoir, c'est de recevoir une plume. Tu sais, c'est la plus belle reconnaissance. J'ai mes diplômes des études supérieures. J'ai la clé de passe-partout, comme on dit, pour pouvoir enseigner dans la langue. J'enseigne pas en innu, j'enseigne en français. Donc, moi, là, je suis une ancienne journaliste aussi de la SOCAM, qui est la Société de communication Atikamekw-Montagnier. J'ai été 3 ans et demi journaliste, donc je connais plusieurs dialectes. Je suis polyglotte dans ma langue, mais je parle français, puis je parle Inuyemun comme il faut, puis dans mon dialecte de la Basse-Côte-Nord. Donc, l'humilité et humblement, là, c'est des qualités communes dans nos nations. Et dans votre nation aussi.
Vous avez reçu le prix Hommage Bénévolat Québec. C'est le plus prestigieux honneur dans le domaine de l'implication communautaire. L'engagement, le volontariat sont donc fondamentaux.
Oui, j'ai fondé un organisme qui s'appelle Angélis. Je supervise une équipe cosmopolite de toutes les nations. J'ai toujours rêvé que la réconciliation, vous l'avez dit, c'est la réconciliation, c'est par l'éducation, c'est en travaillant ensemble et la reconnaissance du bénévolat. Tu sais, nos ancêtres, là, ils ne comptaient pas le temps. Ils ne comptaient pas le temps. Je ne compte pas. Je regarde la cour qui est là, là, vos enfants qui s'amusent. Ils ne comptent pas le temps, eux autres. C'est vous qui allez le compter quand la cloche va sonner. Ben, c'est comme ça. Donc, nous, là, tant qu'on ne nous dit pas, là, tu vas arrêter, là, on continuerait à travailler. Les Autochtones sont comme ça. Le temps s'arrête. Et l'enfant est important. C'est toute la communauté qui élève les enfants. Et c'est comme ça, notre qualité d'Autochtone. Puis je pense que vous l'avez, vous aussi, parce que moi, je côtoie les Autochtones. Et on travaille ensemble. Et c'est une dévalorisation, le bénévolat. Ça fait depuis longtemps, pas juste depuis 13 ans que j'ai fondé. C'était quelque chose que je voulais éclabousser, que ce soit partout, le bénévolat, qu'on arrête. Tu sais, pour qu'on dise à nos enfants aussi, bon, ben, fais quelque chose gratuitement, bénévolement, aide. C'est du bénévolat. On voit toujours les signes de pièce. Hein?
Merci. Mille fois, Marie-Marthe Malek, navigatrice des Premières Nations. Merci.
Merci. Tu me suis tenu à Koumednon, Otome et Tahiyuk Kachi Natotoyuk. Je remercie beaucoup l'accueil pour Clermont-Ferrand, l'université foraine, l'université d'Auvergne.
Ces rencontres au Collège de Ide soulignent la volonté de construire des ponts entre différentes cultures pour l'établissement scolaire du second bassin industriel du Cantal. Et Martine Lombard, qui dirige le Collège, se bat quotidiennement avec son équipe pédagogique pour apporter la meilleure éducation, la meilleure transmission aux élèves. Martine Lombard, principale du Collège Georges Brassens de Ide, au micro de RBA FM pour l'Hebdo. Bonjour Martine Lombard.
Bonjour.
Vous étiez notre invitée il n'y a pas si longtemps pour parler évidemment de l'établissement que vous dirigez, le collège Georges Brassens de Ide. Et ce collège accueille aujourd'hui les universités foraines dans cet établissement. On a vu avec Éric Agbessi et Marie-Marthe Malek tout à l'heure cette volonté de rapprocher, de créer des liens, mais aussi construire quelque chose ensemble. C'est toujours la volonté du Collège Georges Brassens de construire, d'élaborer des projets finalement.
Le Collège Georges Brassens, depuis déjà plusieurs décennies, construit. Il ne se construit pas, mais il construit une culture d'établissement. Il construit un esprit. Et ça ne se voit pas quand on est à l'extérieur. On voit un vieux bâtiment qui est dans sa verdure. Mais quand on est à l'intérieur, on se dit mais il y en a des choses ici. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Qu'est-ce que je peux dire de plus pour que tout cela se mette en route? Oh ben tiens, peut-être que finalement accueillir des gens qui viennent d'ailleurs, promouvoir notre état d'esprit, notre façon de fonctionner et le mettre en relation avec ce que le collège est, ce que nous sommes, finalement c'est peut-être la solution. Alors oui, l'université foraine nous a proposé cette inscription au sein du collège et nous avons répondu très favorablement, bien évidemment. Et l'équipe éducative dans sa globalité.
Nous sommes dans votre bureau là, à l'instant, et en vous asseyant en face de moi tout à l'heure, avant de prendre le micro, vous m'avez dit « Je suis très émue, j'espère que je ne vais pas pleurer ».
Oui, je suis émue parce que je rencontre des gens qui ont des vraies valeurs, qui vont les porter au collège. Donc, peut-être pas en arriver jusqu'à pleurer, mais avoir des frissons, oui, c'est exact.
Vous avez su ici vous entourer des meilleurs pour le bien des collégiens. Concrètement, que peut apporter pour votre établissement scolaire ces universités foraines?
Elles créent du lien, tout simplement, elles créent du lien. Ce lien qui est nécessaire, hein. Elles créent du lien. Nous avons le lien des élèves entre eux, nous avons le lien avec les familles, nous avons le lien avec l'institution, nous avons le lien avec les communicants aussi, et nous avons ce lien qui est capital avec l'extérieur. L'extérieur, nous vivons, le collège ne peut grandir, les collèges ne peuvent grandir que par ces liens-là. Nous, personnel de direction, nous ne sommes que des passerelles. Voilà. Et donc, nous devons mobiliser, nous devons motiver les équipes et que les projets se créent, se construisent. Et voyez-vous, nous allons passer là maintenant, 1h30 environ, à essayer de créer un partenariat avec un établissement du Québec pour continuer l'histoire. Parce qu'elle ne doit pas s'arrêter.
Mais c'est ça, vous parlez de liens, bien entendu, créer des contacts, c'est une ouverture sur le monde, sur un autre territoire, le Canada, le Québec. Vous allez donc rester en contact, pourquoi pas envisager des visios de temps en temps pour le bien de tous, pour le bien des élèves ici?
C'est ce qui est prévu, voilà, tout simplement. On va le formaliser avec la directrice d'un établissement scolaire qui est présente. On va le formaliser. Nous sommes 4 collègues avec Monsieur Delage, que j'ai convié, à essayer de formaliser quelque chose pour que le lien perdure, parce que ça ne doit pas être éphémère, ce genre de choses. On a une dame qui est là, qui vient d'une tribu dont nous, quant à nous n'avons même pas idée. On ne peut pas l'oublier comme ça. Quelle belle aventure. Je vous disais tout à l'heure que j'étais émue, mais sincèrement, je le suis.
Merci Martine Lombard, principale du collège Georges Brassens de Huyde. Au plaisir.
Merci à vous.
RBAFM Auvergne-Limousin.